Le journal Jacques Molliman.
Ouverture ce lundi à Kinshasa des travaux de la quatrième session de la grande commission mixte RDC-Afrique du Sud. Plusieurs accords seront conclus à l'issue de ces travaux, notamment dans le domaine de transport. Troisième phase du programme national des DDR, l'opération de sortie du site de transit de Bounia des ex-combattants a commencé hier dimanche, mais certains démobilisés jugent insuffisant la location de retour qui leur est donnée en plus des kits de sortie. Des jeeps pour les nouveaux parlementaires, elles arrivent bientôt à Kinshasa. Ces chars automobiles pour les parlementaires est acquis sur le principe du crédit sur la rémunération des députés. Mesdames et messieurs, bonjour. La quatrième session des travaux en commission entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud s'ouvre ce lundi à Kinshasa. À cet effet, 13 ministres sud-africains sont déjà dans la capitale congolaise pour ces travaux. Quant aux présidents congolais et sud-africains, ils vont rejoindre les ministres des deux pays le mardi pour sanctionner les travaux préparatoires par la signature de quelques accords. Le ministre congolais des Affaires étrangères s'est confié à Radio Okapi hier lors de la cérémonie de remise des clés de l'Académie diplomatique congolaise par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Dlamini Zuma. Antipas Mbuzayom ici est au micro de Jeff Ngoy.
Cela va nous aider à échanger sur notre programme du gouvernement avec nos partenaires sud-africains. Désormais, nous nous attaquons au développement de ce pays et nous avons des chantiers dans tous les domaines, mais nous en avons choisi une priorité de 5. Essentiellement, nous allons revisiter tous les accords que nous avons déjà signés et il y en a 28, dont moins d'une dizaine sont déjà mises en application. Nous allons les revisiter et voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à faire le travail dans le sens de l'esprit de ces accords. Nous allons aussi signer peut-être un ou deux accords, mais celui de transport inévitablement parce qu'il est prêt depuis bien longtemps, et aussi essayer d'échanger sur les questions d'intérêt régional et sous-régional et continental.
L'Académie diplomatique congolaise a été réhabilitée par l'Afrique du Sud dans le cadre du partenariat entre les deux pays. Elle va s'occuper de la formation des diplomates congolais en commençant par le recyclage des cadres œuvrant au sein du ministère des Affaires étrangères. Direction Ituri à présent pour parler de la troisième phase du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion. En effet, l'opération de sortie du site de transit de Bounia des ex-combattants a débuté hier dimanche à Bounia. Ces derniers reçoivent chacun un kit de matériel de sortie et une allocation de retour avant le début du programme de réinsertion qui interviendra dans 3 mois. Cependant, à l'ouverture de cette opération, un groupe d'ex-combattants refusait de prendre la première tranche de cette allocation, soit l'équivalent de $50 américains. Tous les détails avec Suzanne Nzobo.
Les kits de sortie contiennent 2 casseroles, une radio, 2 piles et 1 sacoche. À cela, il faut ajouter pour les ex-combattantes, notamment une paire de babouches, 2 pannes et 2 sous-vêtements. Pour les $50 leur remis par les PNUD comme première tranche d'allocation, un groupe d'ex-combattants l'ont jugé insuffisante pour faire face aux multiples problèmes domestiques auxquels ils sont confrontés. Une ex-combattante explique.
On nous a promis qu'on aura $10. Arrivé ici, on nous donne $50. Nous avons fait 2 semaines ici, nous avons laissé nos enfants au village. Nous, ici, nous mangeons, mais que mangent nos enfants là-bas? Revenir après 3 mois pour chercher $60, est-ce que ça sera possible?
Selon le responsable en charge des opérations du désarmement au bureau du PNUD en Ituri, plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées au préalable pour expliquer aux ex-combattants que l'allocation de retour serait payée en 2 tranches. Fidel Joda explique.
Ils ont été bien briefés et à tous les niveaux, ça a été expliqué à leur chef, à leur leader. Hier, encore, on a expliqué la même chose. Ils ont accepté. Il y a juste un petit groupe de dissidents qui s'est manifesté au début en disant aux autres ne prenez pas, mais certains sont en train de prendre et d'autres sont en train de refuser. On verra si jusqu'à la sortie ils refusent de prendre, on sera obligé de garder l'argent avec nous en attendant qu'ils se décident de prendre ou pas.
Signalons que cette situation s'était décomptée dimanche en fin d'après-midi. Bounia, Suzanne Zobo, Radio Cap.
Au Kasaï occidental, le tribunal de grande instance de Luebo fustige les comportements de l'Agence nationale des renseignements au niveau du district du Kasaï. Le procureur de la République accuse l'ANR de procéder à des arrestations pour des délits de droit commun. Il a dit au cours d'une réunion ce week-end avec la société civile et les différents services de l'État, la société civile de Luebo qui confirme les faits, appelle les autorités provinciales à ouvrir l'œil pour mettre fin à cette situation. André Kambala.
Arrestation arbitraire, amende forfaitaire et non-respect du délai de détention, tels sont les griefs mis à charge du chef de poste de l'ANR Luebo par le nouveau procureur de la République, Bernardin Niami.
CPPANR, avec ses agents et tous ses collaborateurs qui sont à travers le district, se comportent très mal. Ils arrêtent les gens, ils fouettent les gens, ils demandent des amendes exorbitantes. C'est la situation que je suis venu trouver ici, c'est une situation déplorable. Et pareil, j'ai essayé d'abord de tenir une réunion avec les passeurs de la place pour voir comment ils peuvent aller chaque fois prédire la prédication à la prison. Ils l'ont dit, les autres de l'ANR ont dit qu'ils ne dépendent pas de moi.
La société civile de l'Eubo confirme l'information. Selon son président, maître Innocent Balo Tchibouaboua, l'ANR tracasse les populations et plus à l'intérieur du district. Elle a même ouvert un cachot où sont détenues les personnes pour des délits de droit commun. C'est pourquoi il sollicite l'intervention des autorités provinciales pour mettre fin à toutes ces tracasseries. Contacter le chef de poste de l'ANR, Lebo rejette toutes ces accusations. Odon Sabounia considère que le procureur de la République se fie au bobard. Il confirme enfin que son service travaille dans la collaboration avec d'autres services de l'État. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Alissala, dans le district de la Mongala, nous sommes dans la province de l'Équateur. Un conflit oppose le groupement de Mundunga à celui de Bolongo. Ils se disputent une portion de forêt pour la coupe de bois. Les habitants de Mundunga accusent ceux de Bolongo d'avoir même brûlé un marché de ce groupement pour les forcer à quitter le lieu à problème. Les détails dans ce reportage signé Béatrice Nabinzi.
C'est depuis 2 ans que les deux groupements s'accusent mutuellement autour de cette concession riche en bois. Monsieur Ngobo Arsène, le chef du groupement Bolongo, accuse les Mundunga d'occuper illégalement cette terre et les pousse à quitter la concession dont les premiers occupants sont les Bolongo. Le chef de Mundunga Mundele Ngumbala rétorque de son côté. Pas question, sa communauté ne pourra jamais quitter la concession qu'elle a occupée depuis l'époque coloniale. Depuis lors, les deux parties n'ont pas pu trouver un terrain d'attente sur ce conflit qui a abouti il y a 2 semaines à un incendie du marché Kalagba, un marché commun à 2 groupements. La justice s'est saisie du dossier. L'administrateur du territoire de l'Isala, Kaindo Kalumbe, Emmanuel, s'est dit préoccupé par ces conflits fonciers dont les dossiers traînent encore au parquet. En attendant que la justice tranche cette affaire, les deux communautés vivent isolément l'une de l'autre. Mbandaka, Béatrice Nabindi, Radio Okapi.
Éducation maintenant, tous les étudiants finalistes des institutions publiques auront droit à leur bourse d'études de 3 mois à dater du mois de juillet. C'est la déclaration faite par le ministre d'État à l'enseignement supérieur et universitaire à Bandundouville, où il séjourne depuis ce week-end. Sylvain Gabou répond aux inquiétudes de finalistes des institutions où la collation des grades est intervenue avant la paye de cette bourse. En effet, cette paye a déjà commencé dans la province de Bandundu. Suivant les explications du ministre d'État Sylvain Gabou, il est au micro de Basile Bakumbani.
La bourse qui est octroyée par le gouvernement pour les étudiants finalistes de 2e graduat et de 2e licence, 3e doctorat de médecine, est une bourse qui porte sur 3 mois pour les finalistes actuels, c'est-à-dire le mois de juillet, août, septembre. Mais alors, ceux qui ont eu leur diplôme et qui sont partis, je leur ai toujours demandé qu'ils puissent être en contact permanent avec leurs établissements d'origine, qu'ils vont recevoir ces bourses-là pour le mois de juillet, août et septembre, afin qu'ils puissent venir toucher leurs bourses, puisque c'est un droit pour eux. Ceux qui seront en dernière année, c'est-à-dire en 3e graduat, 2e licence et 3e doctorat en médecine. Dans l'année académique 2007 et 2008, c'est ceux-là qui auront droit à la bourse à partir d'octobre, novembre et décembre.
Le ministre d'État précise que la paye de mois de juillet est déjà disponible sur toute l'étendue du pays et les documents pour les 2 autres mois sont aussi déjà signés. Lancement officiel samedi dernier de la campagne nationale d'inscription des enfants en âge de scolarisation à travers la RDC, initiée par l'UNICEF et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Cette campagne a été lancée à Kinshasa, à l'école primaire Matongé, dans la commune de Kalamu. Cette année, l'appui de l'UNICEF en matériel scolaire pour les écoles primaires du pays s'élève à 9 millions de dollars américains. Il est destiné à aider à la scolarisation de plus de 3 millions d'élèves en RDC. Parmi les objectifs de l'UNICEF, l'équilibre en termes d'accès des filles et des garçons à l'école. Anthony Bloomberg, représentant de l'UNICEF en RDC, est au micro de Mireille Kabala.
Nous avons fait beaucoup de progrès jusqu'à maintenant dans la question de parité entre les filles et les garçons. Aussi, il y a l'idée d'une certaine portion de société que nous nous sommes intéressés seulement aux filles, mais ce n'est pas le cas. Mais je pense que nous avons entendu un niveau de parité filles-garçons et maintenant nous pouvons faire le message pour tous les enfants, pas seulement pour les filles. Mais je peux dire que c'est aussi une réponse d'autres questions, que quand je voyage dans les endroits très lointains, très isolés dans le pays, on peut voir aussi les enfants avec le kit scolaire de l'UNICEF. Alors, je pense que ces kits arrivent, on a besoin de temps pour acheminer tous les équipements à toutes les écoles dans ce très grand pays.
Le gouvernement représenté par le secrétaire général de l'EPSP lors de ce lancement promet de veiller à ce que les kits arrivent effectivement aux destinataires. Il s'engage aussi à continuer la sensibilisation auprès des parents pour l'envoi des enfants à l'école et pour la protection des fournitures de l'UNICEF aux écoles. Des jeeps pour les nouveaux parlementaires. Un journal de la place a parlé des 600 jeeps qui seront à Kinshasa d'ici quelques semaines. Nous avons posé la question à Bahati Lukwebo, le premier questeur de l'Assemblée nationale. Celui-ci explique que l'achat de ces véhicules s'est fait sur base des retenues progressives qui seront faites sur la rémunération des députés. Bahati Lukwebo est au micro de Mireille Kabbala.
Je dois rappeler ici que c'est une opération tout à fait normale avec un montage financier qui consiste en ceci, c'est que les députés acceptent que de leurs émoluments, une retenue mensuelle soit effectuée pour constituer un fonds en vue de payer les jeeps. Donc il n'y a pas d'intervention de l'État, il n'y a pas de garantie du gouvernement, contrairement à ce que j'ai lu dans un journal, et ça n'affecte en rien l'exécution du budget de l'État.
Combien a coûté une jeep?
Les députés eux-mêmes ont désigné des membres qui devaient constituer une commission à raison d'une personne par groupe parlementaire et une personne qui représente les non-inscrits. Ce sont ces membres-là de la commission qui ont examiné les offres présentées par les différentes maisons qui vendent les véhicules. C'est la mieux-disante qui a été retenue.
Quand vous dites la mieux, donc ça a coûté par exemple de 5 000 $, 3 000 $?
Non, c'est-à-dire que celle qui présente les caractéristiques techniques plus performantes est le prix le moins cher.
Dans le Nord Kivu, la mairie de Beni impose des uniformes numérotés aux taximens moto. L'objectif est de mettre fin aux faux motards qui, la nuit, extorquent les biens des passagers. Cette mesure de l'exécutif urbain est saluée par la population qui y voit un moyen de mettre hors d'état de nuire les faux motards qui sèment l'insécurité la nuit. Le point avec Étienne Mouindou.
C'est depuis jeudi dernier que les motards de Beni portent l'uniforme numéroté. Cet uniforme est constitué d'un gilet avec numéro dorsal. Il coûte 1000 francs congolais, soit 2 $ américains. Certains motards doutent de l'efficacité de cette mesure qui n'empêchera pas, selon eux, les bandits de se déguiser à taximène pour ternir leur image. Faux rétorque le maire de ville de Beni, M. Jules Mungwana, qui souligne qu'à l'espace de 4 jours, 750 motards se sont procurés l'uniforme numéroté. En outre, poursuit-il, la mesure porte déjà ses fruits. Les motards, auteurs d'accidents de circulation, sont vite repérés et conduits à la police de roulage pour répondre de leurs fautes. Monsieur le maire estime à 1 500 l'effectif total des motards. Leur identification permettra aussi à la SONAS, au service des impôts, de maximiser leurs recettes. Le maire rappelle que le port de gilets numérotés est obligatoire le jour comme la nuit. Etienne Mouindo, Boutembo, Radio Okapi.
Au Kassai oriental, fin des travaux de réhabilitation de la route des déserts agricoles Moulundu-Ikong dans les territoires de Lilou. La FAO qui assure la supervision des travaux a reçu samedi ce tronçon long de 62 km des organisations locales de développement en charge de l'exécution du projet. Julien Yamouyi.
En ce C'est avec le financement de la Belgique, ça fait montant de plus de 30 000 dollars américains octroyés à la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, que cette route de desserte agricole a été entièrement réhabilitée par les ONG locales. Selon Justin Fabien Bondonga, consultant national de la FAO en charge des routes, la réhabilitation de ces tronçons Mulundu-Wikang permettra aux agriculteurs de la région d'évacuer la production agricole vers de grands centres de consommation, notamment les villes de Mwenedito et Mbujimaï. Il a par ailleurs indiqué que les localités de Mulundu et Wikang demeurent aux yeux de la FAO les zones de haute production agricole, d'où la remise à l'état des ponts de Wowol, Moussel et Mbouidé. De son côté, l'administrateur du territoire de Lwilu déclare que la réhabilitation de cette route de desserte agricole permettra l'accès dans la région des véhicules de grand tonnage. Les tronçons Mwenedito-Mulundu long de 50 km ayant déjà été réhabilités dans le cadre du même projet. Julien Demouigny, Mbujimaï, Radio Okapi.
7h15, à Kinshasa, ainsi s'achève cette édition du Journal Parlé. Merci de nous avoir suivis.